Vous êtes sur RTL. Sur RTL.
Nous sommes donc avec Marc et je rappelle, si tout le monde n'est pas au courant, que les écologistes de Vincennes ont joué quasiment une scène de Pagnol, confondant la marine à voile avec un paquebot de haute mer, puisqu'ils ont refusé une subvention pour un club de voile au prétexte que la pratique de la voile serait polluante. Alors depuis, ils se sont excusés, bien sûr, et notamment l'homme qui était interrogé dans ce conseil municipal, on entendra peut-être tout à l'heure le son que Cyprien Signy a passé ce matin, et il a dit « j'étais en partiel, manifestement c'est un étudiant que cet élu Europe Écologie Les Verts, et il a dit « j'étais en partiel et j'ai pas bossé mes dossiers ». Dont acte. À vous Marc.
Eh bien, c'est très bien de dire ça, parce que j'ai vu cette vidéo, effectivement. Je n'ai pas écouté Cyprien Signy ce matin, exceptionnellement, mais j'ai vu la vidéo. Ce garçon, visiblement, ne connaissait pas son dossier. Il a cherché une réponse salvatrice dans son écran, qu'il n'a évidemment pas trouvé. Alors, sur le fond, moi, je ne compare pas cette affaire avec celle de la mère de Poitiers sur l'avion, pour laquelle vous m'aviez déjà interviewé. Pourquoi je ne compare pas? D'abord, premièrement, à Poitiers, la mère, elle est aux commandes. Alors qu'à Vincennes, visiblement, ce n'est pas une mère écologiste. Ça, c'est une première chose. Alors, évidemment, il ne connaissait pas son dossier, bien sûr, mais sur le fond, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en France? Pour moi, la plupart des élus écologistes, ce sont des anciens militants de gauche qui ne trouvent plus leur qui ne trouvent plus leur compte dans les partis traditionnels. Et sur le fond, pour moi, un parti écologiste, ça ne devrait pas exister. L'écologie n'est pas de la politique. La politique, c'est l'affaire de la gestion des hommes. Donc tous les partis politiques devraient avoir un volet écologiste. Avoir un parti écolo, ça ne rime à rien. C'est simplement que ça rassemble des voix qui veulent s'opposer au pouvoir en place. Voilà. Donc, pour moi, la comparaison s'arrête là. Parce que la maire de Poitiers, peut-être ses paroles ont dépassé sa pensée.
Je ne suis pas sûr. Elles correspondent au contraire à ce qu'elle pense.
Oui, alors,
c'est ça. Et elle avait dit l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. Je pense qu'elle pense précisément cela, et c'est Léonore Monconduit qui avait dit cela.
Voilà. Mais alors, vous me devancez, c'est ce que je voulais dire. Les paroles elles-mêmes ont peut-être dépassé sa pensée, mais la mère écologiste de Poitiers applique son programme. Mmh. Elle applique ce pourquoi elle a été élue. Et ces gens-là sont des gens dangereux. Pour moi, ce sont des gens dogmatiques. Ce jeune-là, il n'avait effectivement pas lu ses dossiers. Ça se voit, on ne va pas polémiquer 107 ans avec ça. Il n'avait pas lu ses dossiers, mais il a appliqué. Vous savez, il y a très longtemps, le Parti communiste avait ce qu'on appelait un vote de classe. C'est-à-dire, on ne cherchait pas à comprendre. On votait comme le parti avait dit. Eh bien, ce jeune, il a fait un vote de classe. Il a refusé une subvention à un club sportif. Alors, est-ce qu'il a dans sa tête, je ne sais pas ce qui lui est passé. Parce que
1000 euros la subvention, je le rappelle, oui, parce que c'est drôle, oui, oui. Tellement c'est dérisoire. Oui. 1000
c'est
euros
dérisoire,
de subvention.
Oui, on est bien d'accord. Mais ce qui est génial, c'est la façon dont la mère lui répond. On voit bien qu'elle le ridiculise, et elle a bien fait de le faire. Mais la comparaison, pour moi, s'arrête là. Je pense qu'à Vincennes, les écolos ne sont pas aux manettes. Et je peux me tromper, je n'ai pas été regardé.
Non, la mairie, c'est Mme Charlotte Libert-Albanel, qui est maire UDI.
Oui,
les maires UDI. Effectivement, ils sont quatre représentants de Europe Écologie Les Verts dans son conseil municipal.
Alors, pour terminer, parce que je ne veux pas mobiliser la parole, je mets en garde l'ensemble des électeurs en France de faire attention quand ils mettent leur bulletin de vote dans l'urne, parce que pour moi, je répète, l'écologie n'a pas à être un parti politique. Il faut faire pression sur nos élus traditionnels pour qu'on prenne en compte l'écologie. Voilà.
Eh bien, j'entends bien. Alors, quand tient Bernier Gravat, qui est le jeune écologiste étudiant, il avait fait un premier tweet que je lisais tout à l'heure. Depuis toujours, Europe Écologie Les Verts est pour la captation vidéo des conseils municipaux, a-t-il écrit, au nom de la transparence. Et ok, parfois on le regrette, j'avais bossé mes partiels, un peu moins mes dossiers, mais à culpa. Donc il était plutôt sympa. Ce tweet, en fait, il en a fait un deuxième qui est un peu moins sympa, peut-être parce qu'il s'enfonce un peu. quitte à trouver des énergies fossiles. Il a écrit ceci: « Bon, à tous les trolls qui s'amusent de mon intervention ratée, il faut le dire, hier soir, non, nous ne souhaitons pas donner de subvention à une pratique qui demande de prendre sa voiture pour l'effectuer. » Car la téléportation n'existe pas à Vincennes. Vous voyez, ça me fait rire, parce qu'effectivement, alors,
si, effectivement,
il enlève la subvention, parce que pour aller faire du yacht, il faut parfois prendre une voiture.
Donc
là,
voiture.
Effectivement,
voilà.
c'est un argument qui peut paraître étrange. Je vous remercie beaucoup,
Marc. Merci, Pascal.
Nous, ça nous donne l'occasion de faire des petites playlists, parce qu'avec Madame Léonore Monconduit, on avait une playlist avion. Et bien là, on va avoir une playlist voile, bateau et naufrage ou Titanic, je ne sais pas, Greg Caradoni.
Vous me prenez presque de court, j'avais sorti ça.
Oh, mon bateau.
Moi, je pense que ce qui aurait été mieux, peut-être, si vous me permettez, hein, c'était la musique de Titanic, hein, pour nos amis Europe Écologie Les Verts. Ça s'adaptait, c'était plus adapté peut-être, parce que là, c'est un naufrage quand même. Hein.
C'est vrai, mais ça peut s'arranger.
Bon, Cyprien Sini va passer nous voir, j'imagine, parce que ce soir, c'est On défait le monde, et traditionnellement, il passe le vendredi nous donner le programme. Donc, on parlera de sa chronique ce matin, il est très en forme. Hier, il a fait un truc sur, je crois que c'était sur Alain Finkielkraut, hein. On est à l'antenne, là ? C'est ça, c'était sa chronique d'hier, me semble-t-il. La pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Braun.
Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal. Comment allez-vous ?
Ça va bien et vous ?
Bah fort bien ma foi. Après la polémique sur les avions, un élu Europe Écologie Les Verts de Vincennes dans le Val-de-Marne s'est fait remarquer lors du conseil municipal de la ville. Il a défendu la volonté des écologistes de supprimer les subventions au yacht club de la ville.
Est-ce que vous pourriez nous donner un élément d'explication pour le yacht club ?
Vous savez très bien la raison de notre vote. Nous ne subventionnons pas des sports qui émettent des polluants.
Pourquoi pas ? Oui, mais il y a un mail. Le conseiller municipal d'Europe Écologie Les Verts n'a pas vraiment regardé le dossier.
Des quoi ? Des polluants ?
Le yacht club, c'est des bateaux.
À voile.
Oui, mais il n'y a pas un port en France. C'est bien une convention.
C'est de la voile. Ça avance avec le vent, un bateau.
À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette.
Le conseiller municipal de Vincennes a depuis fait son mea culpa. Alors ses élus ont fait un pari entre eux, demande Marie sur la page Facebook de l'émission, à celui ou celle qui sortira la plus grosse bêtise. Ils sont forts. Avant de voter, réagit Pascal, on se renseigne un minimum sur les dossiers qu'est la compétence. Une erreur de débutant, allez. Pour Gaëtan, cela prouve que des écologistes sont programmés à dire non à tout sans réfléchir. Et là, quand on balance ce genre de phrase, conclut Fred, bon courage pour la crédibilité. Ils vont ramer maintenant.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une deuxième élue écologiste
qui tente de le défendre.
Exactement, et on l'écoutera peut-être tout à l'heure. Et là, elle est sur un autre registre. Elle est sur un registre manifestement financier ou de classe sociale. Elle dit, voilà, Yacht Club, sans doute pense-t-elle que c'est des gens très riches ou des grands bourgeois qui pratiquent cette activité. Et la vérité, c'est que ce Yacht Club, c'est 6 euros d'adhésion par an. Et il est organisé uniquement par des bénévoles. Donc c'est assez intéressant de voir, c'est un réflexe de Pavlov, c'est-à-dire qu'elle envoie Yacht Club, et pour elle, Yacht Club, c'est le blazer, la casquette sur la tête, et le troisième pont à Saint-Tropez d'un yacht, peut-être. Bonjour Aurore, vous êtes étudiante.
Bonjour,
et vous êtes à Sciences Po Paris. C'est bien quand vous nous appelez, parce que c'est une voix jeune, parmi les plus jeunes des auditeurs, auditrices en l'occurrence.
Ça fait toujours plaisir de vous avoir.
Eh ben, c'est gentil. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors, moi, ce qui m'a interpellée, c'est surtout de voir qu'en fait, on fait des polémiques en ce moment énormément sur Europe Écologie Les Verts. Pourquoi ? Parce que c'est un parti qui prend de l'importance. Et avec l'approche des régionales et des présidentielles, on a pu le voir au débat hier soir, c'est un parti qui prend de l'importance et on sait bien que plus on a d'opposants et de polémiques, plus ça veut dire que le parti prend de l'importance, forcément.
Bah, convenez qu'ils y mettent un peu du sien quand même, les élus écologistes, parce que le maire de Bordeaux, M. Urmic, qui ne souhaite pas d'arbres morts, le maire de Lyon, qui ne souhaite pas le Tour de France, la maire de Poitiers, qui ne veut plus d'avion... et la maire de Strasbourg qui subventionne une mosquée, ils y mettent un peu du leur ou du sien.
On ne peut pas comparer ces polémiques qu'il y a eu auparavant avec là cette polémique là. Pour moi, effectivement, c'est un étudiant. Il a fait son mea culpa. Il ne faut pas non plus s'acharner. Effectivement, il a reconnu qu'il n'avait pas bossé ce dossier. Mais de là à relier au fait que les écologistes disent non à tout, etc. Je trouve que c'est sincèrement extrapoler la situation.
Ben, vous avez raison. Là, de ce point de vue-là, vous avez raison. Mais ça montre quand même, et la deuxième intervention, on l'écoutera peut-être, hein, de cet élu écologiste, ça montre, je trouve, quand même, une forme de, oui, dogmatisme, de réagir de manière pavlovienne sur certains sujets. Alors, comment dire, c'est des réactions idéologiques. L'idéologie arrive, et on ne cherche pas ni à comprendre, ni à nuancer, on plaque son idéologie.
Alors, monsieur Pro, on ne peut pas dire que tous les écologistes sont des extrémistes.
Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit idéologue.
Non, je ne dis pas ça.
Un idéologue, est-ce qu'un idéologue est un extrémiste? Voilà une bonne question.
Mais
c'est difficile, l'idéologue, parce que tout doit rentrer dans la bouteille avec un idéologue. Le journaliste, par exemple, c'est le contraire d'un idéologue.
Sincèrement, je disais ça par rapport aux autres intervenants qui ont rapproché effectivement les écologistes avec des personnes qui disaient non à tout, qui ne réfléchissaient pas, qui votaient tout le temps contre dans une opposition bête et méchante, on peut le dire. Or, ce n'est absolument pas le cas. On ne peut pas dire ça et je trouve ça dangereux de dire que l'écologie aujourd'hui est un parti écologique et totalement dogmatique.
Certains le sont, on les qualifie même parfois, pas tous, là encore, des Khmers verts, c'est l'expression qui est utilisée. Il y a parfois, convenez-en,
Mais il en existe. Mais sincèrement, on ne peut pas dire que Europe Écologie Les Verts est composée uniquement d'extrémistes.
Je ne dis pas cela, je dis en revanche que le maire de Lyon qui fustige le Tour de France en le traitant de machiste et de polluant, me paraît être dans une idéologie, ou faire de l'idéologie.
Pour être polluant, le Tour de France l'est, il l'est effectivement. Monsieur Jadot a pu le dire hier soir dans le débat, effectivement.
Mais alors, votre solution, supprime le Tour de France, parce que c'est
bien sûr que
tout
non.
est polluant,
bien sûr
c'est
non.
ça qui est... Bien sûr que la planète est
non,
polluée.
Mais on peut faire des choses pour éviter qu'il y ait une mer de plastique qui soit laissée derrière. Ça, c'est quelque chose...
C'est ce que fait en l'occurrence Christian Prudhomme et le Tour de France, qui sont très vigilants là-dessus. Ils sont très vigilants, hein, vous savez, c'est comme les entreprises, elles sont très vigilantes aujourd'hui, les entreprises. Dans une entreprise comme RTL, vous ne trouverez plus une bouteille de plastique dans la maison, une bouteille de plastique d'eau minérale.
Eh bien, c'est très bien, mais ça dépend des entreprises.
Les grandes entreprises sont très vigilantes, croyez-moi, Aurore.
Ça commence, et tant mieux.
Et comme vous dites, tant mieux, effectivement. Vous avez parfaitement raison.
Il était temps.
En tout cas, Aurore, c'est bien de vous avoir parce que forcément, c'est une autre sensibilité. Et manifestement, la jeune femme que vous êtes est sans doute plus sensible à l'écologie que ne le sont des gens qui ont un âge plus avancé. On s'aperçoit que dans votre génération, ce thème-là est au centre, parfois, de vos préoccupations, Aurore.
Oui, ça l'est.
Eh bien, je vous remercie grandement d'être intervenue. Vraiment, merci, Aurore. La playlist bateau, je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux. Michel Polnareff, vous connaissez cette chanson ?
Je te donnerai.
Voilà. C'est ça que vous aviez prévu ?
Je suis dans votre cerveau, Pascal.
Non, c'est vrai ?
Bah, la preuve.
Ça, c'est fou, ça. Rien n'est préparé, hein ?
Bah, non, je sais.
Là, vous m'avez sidéré. La voix de Polnareff, magnifique. On écoutera également du Christophe, ça fait un an, jour pour jour, qu'il est décédé. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Je vous disais que derrière Quentin Bernier-Gravat, une autre élue vert avait pris la parole. et avait tenté de défendre la cause sur un registre différent, plus, j'ai envie de dire, social ou économique. Cet élu s'appelle Muriel Auchemaille. Écoutons-la.
Les faux procès, ça commence un peu à me chauffer la bile, mais je resterai zen. On trouve quand même qu'un yacht club à Vincennes, à part pour sur le lac Daumesnil faire un peu de voile, à part privilégier un petit groupe de copains, c'est pour ça qu'on ne votera pas cette subvention, c'est tout. On va pas s'expliquer sur chaque vote, si.
Privilégier un petit groupe de copains, mais c'est pas ça du tout. Je le rappelle, c'est 6 euros l'adhésion annuelle. Bonjour Nicolas, vous êtes maire adjoint à Compiègne.
Oui, bonjour Pascal.
Et vous êtes Europe Écologie Les Verts?
Pas du tout.
Pas du tout.
Je suis un élu de la ville de Compiègne depuis 32 ans, non carté et apolitique.
D'accord.
Mais, cher Pascal, je reste persuadé quand même que l'écologie n'appartient à personne. Compiègne, c'est 17 000 hectares de forêt, c'est une chose domaniale. On n'a pas attendu d'avoir des écologistes pour faire de l'écologie. Et je me souviens jadis, lorsque en 2001 j'étais candidat au cantonal, qui s'appelle départemental maintenant, les écologistes n'avaient pas voulu m'apporter leur voix parce que j'étais soi-disant pseudo-droite. Mais l'écologie, elle appartient à tous les jours. Lorsque vous vous levez le matin, lorsque vous vous couchez le soir, vous faites de l'écologie au quotidien. Et je reste persuadé quand même que, comme vous m'aviez sollicité à l'époque pour les sapins, les arbres morts de Bordeaux, il y a un certain nombre d'ayatollahs de l'écologie qui, à mon avis, se trompent. Parce que je reste que l'on soit de droite ou de gauche, et je le dis, on peut faire de l'écologie au quotidien. On n'a pas besoin d'être flanqué, matraqué avec écologie les verts pour être écologique. Je trouve que c'est un peu de surcroît tendancieux. Et puis, entre vous soit dit, on peut être jeune, j'ai été très jeune élu à 24 ans dans cette ville de Compiègne. Je peux vous dire qu'on travaillait les dossiers. Il m'est arrivé sans doute d'avoir des positions un peu inadéquates. Mais toutefois, trouver quand même que la voile perdure quelques émissions de serre ou de gaz à effet de serre, c'est un peu limite.
Non mais ça, il ne pensait pas ça. Je pense qu'il pensait tout simplement que le yacht club, il y avait des bateaux à moteur. Je pense que c'est ça.
Oui.
Je pense, et comme ils n'ont pas travaillé, effectivement, et puis la dame qui vient à son secours, elle pense, elle, que c'est un club pour aristocrates. Donc, effectivement, oui, c'est un manque de travail. C'est ça aussi qu'on peut voir. Il y a dogmatisme et amateurisme.
Alors, amateurisme d'un élu, on peut se permettre, lorsque l'on est très jeune, d'essayer d'apprendre. Je vois, nous sommes élus à Compiègne depuis un an à nouveau. Je vois des nouveaux élus maintenant. Bon, ils apprennent. Ce qui est logique d'ailleurs, de passer. On parlait de l'ENA, de la fermeture de l'ENA, plein de choses. Il faut quand même apprendre à des gens à être de terrain et à savoir. Moi, qui suis pas un politicien, savoir ce que c'est qu'une ville, qu'une voilà. Bon, qu'il soit étudiant, qu'il n'ait pas étudié, peu de choses. Et quand j'entends sa consoeur ou sa collègue dire que c'est ainsi, vous savez, c'est comme à Poitiers, il faut arrêter. Des gamins qui rêvaient de monter dans un avion, qui rêvaient de voir le ciel, qui rêvaient sans nul doute d'avoir quelques minutes de bonheur dans leur vie avec leur handicap, je peux vous dire que ça, ce sont des choses qui marqueront beaucoup plus un jour ou l'autre dans les urnes futures que des choses qui soient comme ça.
Bah merci Nicolas pour ce nouveau témoignage, ça fait beaucoup réagir. Jean-Michel est là, bonjour Jean-Michel.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous, vous êtes agriculteur.
Oui, et je peux vous dire que ces épisodes-là, ça me fait pas rire. Mmh. Bon, de toute façon, les écologistes ne m'ont jamais fait rire. Depuis que Mme Voynet, ministre de Lionel Jospin, avait favorisé le véhicule à gaz au détriment du véhicule électrique, et on s'aperçoit que maintenant, l'avenir, c'est le véhicule électrique. Depuis que Mme Voynet a supprimé le tunnel, le canal qui devait relier le Rhin au Rhône, c'est-à-dire qui devait relier pour le transport de marchandises, la mer du Nord à la Méditerranée, qui a été supprimée par Mme Voynet, elle a tiré un trait dessus. Quand on voit que les écologistes s'opposent au ferroutage par l'interdiction d'un aménagement de tunnel pour, encore une fois, relier la vallée du Rhône au nord de l'Italie, dont on sait que c'est des segments routiers qui sont encombrés de transport, comment est-ce que vous avez pu un jour imaginer que les écologistes étaient des solutions? Et ils en sont passés au stade supérieur maintenant. Ils sont passés au stade où ils deviennent méchants. c'est possible qu'un club de bateau à Vincennes, ce soit pas l'idéal. Mais peut-être que les gens de Vincennes, ils n'ont pas les moyens d'aller à Deauville pour faire du bateau. Mmh. Et que donc, pour s'initier à la voile, le faire à Vincennes, même sur un lac, eh ben, c'est toujours intéressant, c'est toujours utile, parce que ça permet à des jeunes d'apprendre quelque chose. À Poitiers, j'habite à 60 km de Poitiers. Je la connais bien, Madame Mauconduit, parce qu'à des réunions sur l'environnement, où il y avait des problèmes agricoles, j'étais pas avec elle, j'étais dans la même réunion, mais contre elle. Elle n'a aucun sens commun. Elle aurait pu, par exemple, dire à l'aéroclub, bon écoutez, vos avions moteurs, là c'est vrai, ça fait du bruit, c'est pas bien, envisageons l'acquisition d'avions électriques. Tous les avionneurs se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils vont faire voler des avions sans carburant fossile. Elle aurait pu rentrer dans cette filière, mais non, c'est plus facile d'être méchant.
C'est alors, pas méchant d'ailleurs, c'est le mot, c'est plaquer l'idéologie, c'est non, on plaque non, son non. idéologie sur
non,
le réel.
Pascal, quand on dit aux enfants qu'il faut...
Je sais pas si Pascal, les méchants,
Pascal, oui. Pascal, quand on dit aux enfants qu'ils arrêtent de rêver, c'est de la méchanceté.
C'est en tout cas, c'est ce que vous pensez.
Ah ben, mais oui, mais bien sûr. Alors maintenant, j'espère que tout le monde a compris que les écologistes n'ont qu'un ennemi, c'est l'espèce humaine, que quel que soit ce que l'on fera, de toute façon, l'espèce humaine sera l'espèce à supprimer. Alors, ils n'ont peut-être pas compris qu'ils étaient humains aussi, j'en sais rien. Mais on aura fait un grand pas en avant. Voilà.
Ben merci beaucoup Jean-Michel pour ce témoignage. Merci beaucoup. Geneviève est là.
Merci Pascal.
Alors Geneviève, ça va être intéressant de l'écouter après la pause parce qu'elle est monitrice de bateau. Donc effectivement, elle est peut-être aujourd'hui autorisée à avoir un avis particulier. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 13h28.
Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. Une dose, deux et maintenant trois. Les personnes qui ont reçu le vaccin de Pfizer auront probablement besoin d'une troisième dose d'ici 6 mois, 1 an et sans doute une injection chaque année. Bien pour José sur nos réseaux sociaux. 3 doses, d'accord, mais il faudrait déjà pouvoir recevoir la première. J'attends toujours mon tour. Mais c'est sans fin cette histoire de vaccin, rajoute Christian. Et c'est une habitude à prendre comme pour d'autres, nous dit Véronique. Partagez-vous ces avis. 32-10. Vous avez été nombreux hier à témoigner dans l'émission sur cette question. Croyez-vous à une réouverture progressive à partir de la mi-mai? Emmanuel Macron a indiqué à une quinzaine de maires qu'il comptait toujours rouvrir des musées et des terrasses dans 1 mois. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au standard. Nos policiers sont-ils en danger? Des photos personnelles de 2 fonctionnaires de police d'Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis ont été placardées sur la porte d'un immeuble d'une cité de la ville. Un selfie, une photo de mariage ont été récupérées sur leur compte Facebook. Les photos ont depuis été retirées. Rocco Contento est délégué du syndicat Unité SGP Police à Paris.
C'est une menace caractérisée contre les forces de police. Il faut savoir qu'à Épinay-sur-Seine, la cité La Source est un point important de deal. Donc c'est un signal, un très mauvais signal envoyé par ces voyous, ces bandits, en disant, voyez, on vous connaît, on vous identifie, on connaît aussi vos épouses.
Rocco Contento du syndicat Unité SGP Police, interrogé par Alice Moreno. Inadmissible, écrit Corinne sur nos réseaux sociaux. J'en ai marre de ce déchaînement contre les forces de l'ordre, lance Thierry. Sous les uniformes, ce sont des êtres humains et souvent des parents.
Laurent, je suis un peu ennuyé parce que nous n'avons que des adversaires, non pas tant d'ailleurs de l'écologie, ça n'aurait pas de sens, mais de Europe Écologie Les Verts au standard. Donc je lance un appel, il faut quand même que nous ayons des supporters, des partisans d'Europe Écologie Les Verts. Parce que je vois arriver devant moi que des gens qui ont envie d'entrer en contradiction avec la politique d'Europe Écologie Les Verts. Alors Geneviève, bonjour, vous vous vendez, plus exactement, vous êtes monitrice de bateau.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour, c'est-à-dire en quoi consiste précisément votre métier, bateau à voile?
Ah non, nous c'est les bateaux à moteur.
Ah oui, effectivement, oui. Donc vous êtes doublement touché par Europe Écologie Les Verts.
Exactement. Alors, Europe Écologie Les Verts, en soi, peut-être pas uniquement ou forcément. Nous, notre crainte, c'est qu'au fur et à mesure du temps qui passe, on se dit, qu'est-ce qu'on va devenir ? Parce que, malheureusement, en France, à l'heure actuelle, les permis bateaux, c'est pour les bateaux à moteur.
Et vous avez le sentiment qu'il y a moins aujourd'hui de demandes pour passer son permis bateau ?
Eh bien non, ça augmente.
Alors,
justement.
Tout va bien pour vous.
Eh ben non, parce que nous dépendons du ministère de la Transition écologique, hein, n'est-ce pas? Et nous sommes confrontés de plus en plus à de gros problèmes pour le passage des examens des candidats.
Par exemple.
Ben, la demande augmente. L'année dernière, il y a eu à peu près 10% d'augmentation de demande parce que je pense que les gens ont besoin de s'évader, c'est des loisirs. Et en ce moment, ben, il n'y a que ça, je pense, sur lequel les gens se retournent parce que ben, il faut se changer un petit peu les idées. Et puis ben, nous, de notre côté, l'administration ne nous fournit pas les moyens de travailler. Et
ça serait quoi de vous fournir les moyens ?
Eh ben de nous autoriser à avoir plus de passages de candidats, plus d'examens. Voilà, on est en overdose totale de pouvoir passer les candidats. Là, on a 6 à 8 mois de délai pour pouvoir présenter des candidats. Mmh. Voilà, donc l'écologie.
Mais ça, c'est une volonté de freiner.
Ah ben écoutez, c'est à gratter, mais je pense que au fin fond des fins fonds des problèmes, je pense que il y a quelque chose comme ça.
Donc vous êtes quand vous êtes moniteur, c'est-à-dire que vous êtes c'est vous qui faites passer l'examen pour donner.
Alors non, on fait la formation théorique. Mmh. L'administration gère les passages d'examen théorique, et c'est là que le bât blesse.
Parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont capables de faire passer les examens. Il n'y a pas assez de, je ne sais pas comment on dit moniteurs également.
Oui, non, ce sont des agents administratifs.
Agents administratifs.
Ce ne sont même pas des examinateurs, ce sont des agents administratifs. Nous sur la région parisienne, parce que bon, je parle de mon cas, puisqu'on est quand même l'endroit où il y a une demande énorme sur la France, hein, c'est vraiment la région parisienne. Sur Paris-Île-de-France, nous avons un centre d'examen. Mmh.
Donc, voilà. Il faut 6 mois, 8 mois entre le moment où...
6 mois, voilà, exactement. À l'heure actuelle, on propose des gens pour des examens d'octobre, novembre, si tout va bien.
D'accord. Un permis bateau, ça se passe en combien de temps ?
Ah, là, moi, je vais vous dire, le délai, ça va être 6 mois.
Oui, non, mais là, pour le délai, j'ai compris, mais pour les cours, combien de leçons ?
La formation peut se faire très vite. Je vais vous dire, la formation théorique, on nous demande de faire 5 heures minimum au candidat, d'accord ? Et ensuite, on a entre 2 et 4 heures de pratique bateau.
Et donc
ça peut se faire très, très vite.
C'est assez peu, d'ailleurs.
Mais bien sûr. Mais
c'est peut-être
sûr.
Pas assez d'ailleurs. Hein. Oui, vous donnez des. En 4
niveau...
heures, vous allez piloter un bateau.
Bien sûr.
En 4
bien
heures
sûr. Ah bon. Mais bien sûr, c'est super facile le bateau. Mais après, la pédagogie, la dispense de formation, ça c'est un autre domaine. Et là, pour le coup, c'est nous qui sommes agréés en tant qu'établissement de formation pour autoriser les candidats à aller naviguer ou pas. Donc à nous de prendre nos responsabilités.
Ben merci Geneviève.
Merci à vous Pascal.
Ben non, vraiment, merci beaucoup.
Merci.
Une nouvelle pause et puis on reviendra avec une chanson pour évoquer la mémoire de Christophe qui nous a quittés il y a un an.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
J'avais dessiné sur le sable, son doux visage qui me souriait. Puis il a plu.
Combien de fois a-t-on entendu cette chanson, à votre avis, depuis que vous êtes né ? 100 fois ? 1000 fois ? 5000 fois ?
Elle a disparu.
Vous, 10 000, je pense.
Je vous remercie.
Et j'ai crié.
Et vous savez qu'elle est sortie à quasiment 20 ans de différence, une première fois dans les années 60 et puis après en 82. Aline, c'est une merveilleuse chanson que tout le monde connaît. Vous pourrez réagir sur la mort de Christophe il y a un an, jour pour jour. Nous sommes avec Guillaume. Alors, je voudrais qu'on élargisse, on ne va pas parler que de ce qui s'est passé, évidemment, dans ce conseil municipal. La chose est dite désormais, mais peut-être voulez-vous réagir sur Europe Écologie Les Verts. Et ce serait bien qu'on ait aussi des témoignages positifs, favorables à ce mouvement écologique qui pèse dans la société française. Guillaume, qui est avocat et qui habite Nantes, bonjour.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Mais je vous en prie, merci de prendre cet appel. Il n'y a pas de difficulté à ce que les gens aient envie de créer un parti politique de type écologie, peu importe lequel. Je ne suis pas sûr que ce soit sa véritable place en France. En fait, il me semble que la notion de l'écologie est plus un art de vivre qu'une question politique. C'est-à-dire qu'il appartient au gouvernement, de quelque couleur qu'il soit, de promouvoir cette idée de l'écologie pour que les gens en fassent un véritable art de vivre.
L'art de vivre, c'est la politique au sens premier, j'ai envie de dire. C'est presque une conséquence de la politique, l'art de vivre. C'est s'occuper de la vie de la cité. Et un art de vivre, ça rejoint cela.
Alors, peut-être, mais est-ce que pour autant, l'amour, qui est une très belle valeur, va entraîner la création d'un parti politique de l'amour ? En d'autres termes, tout ce que l'on vit en France, de quelque manière que ce soit, ne nécessite pas nécessairement un parti politique.
Je suis d'accord, mais pour faire avancer, qu'est-ce que vous remettez en cause ? Le fait même qu'il y ait un parti écologique ?
Ah non, moi je vote pas pour les écologistes, mais j'allais dire...
Vous trouvez que ça n'a pas sa place dans le débat politique, l'écologie ?
Mais si, ça a sa place dans le débat politique, mais pour autant, le fait que ça ait sa place ne suppose pas nécessairement la création d'un parti politique.
Et oui, mais comment dire, il existe ce parti, manifestement, il y a des gens qui sont plutôt contents qu'il existe et qui sont contents de retrouver à l'intérieur d'un parti une manière de voir la société avec un certain prisme et que ce prisme soit celui de l'écologie.
Mais je l'entends très bien, ça. Mais pour autant, je pense qu'il n'est pas nécessaire de créer un parti politique. Mmh.
Nous sommes d'accord, mais il est là aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire, Guillaume ? Vous voulez le supprimer parce que vous pouvez ne pas voter.
Ah non.
Après tout, il est, il existe. Vous avez écouté Monsieur Jadot hier soir ?
Non, je ne l'ai pas écouté.
Bah, remarquez, vous n'étiez pas nombreux. Hein, je vous rassure, il y avait 1 million de personnes hier soir avec Bruno Le Maire. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit quand même 1 million sur France 2, une grande chaîne de télévision, et un débat entre Yannick Jadot et Bruno Le Maire, ça veut dire que ça passionne pas les gens. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Cette politique-là ne passionne pas manifestement le grand public.
Mais il me semble qu'on a la nécessité de protéger le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et que ça passe par des actes individuels. Alors après, il faut essayer de les promouvoir, ces actes individuels.
Oui, mais il faut une politique peut-être générale quand même. Il y a des choses qui sont peut-être bien à prendre pour justement essayer de réguler, notamment le climat qui aujourd'hui est changeant.
Oui,
d'ailleurs, c'est pas le mot. Le mot changeant ne va pas.
Mais c'est une question transversale, Pascal. Et elle intéresse...
L'urgence climatique est plus adaptée.
L'aspect de l'écologie est une question qui est transversale. Elle concerne tous les hommes. Quelles que soient leurs opinions.
Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des villes qui ont été massacrées dans les années 60, 70, 80, et c'est pas mal aujourd'hui qu'on regarde les villes à travers l'espace vert, à travers l'arbre, à travers un bien-être de vivre, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, qui correspond aussi à des valeurs écologistes.
Mais bien sûr, mais ces valeurs ne nécessitent pas forcément la constitution.
Oui, mais j'ai bien compris.
Je comprends qu'il y en ait qui soient attachés à ce parti politique. C'est le principe de la démocratie.
Je comprends. Ben, merci beaucoup, Guillaume. Attaché à des valeurs écologiques. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous.
Passez une bonne journée.
Ben, c'est gentil. Merci. Ah, alors Hervé et dit « Je suis écolo ». Ça, c'est bien. Bonjour, Hervé.
Bonjour, merci de me prendre.
Merci à vous.
Je voulais témoigner parce que cette réaction d'un élu écologiste, d'ailleurs, c'est très bien qu'il y ait des jeunes qui s'intègrent, qui veuillent participer.
Vous êtes mis en haut-parleur, Hervé ?
Non, pas du tout.
Parce qu'on ne vous entend pas très bien.
Alors, j'ai ni la radio, ni le haut-parleur.
Ben là, on vous entend bien.
Donc oui, je disais, je voulais témoigner parce que ça fait tellement longtemps que les écologistes nous sortent le parti écologiste. Je distingue bien les Verts et les écologistes. Moi, je suis écologiste, j'ai 48 ans. Je pense être écologiste depuis au moins l'âge de 10 ans. J'ai toujours été passionné par la nature et dans un esprit de découverte, mais surtout de respect. Parce que, bien entendu, la nature, on vit avec. et si on ne la respecte pas, on va le payer un jour. On est en train de la payer. Bref, et cette réaction est une autre réaction d'Écologie des Verts parmi tant. Je prends comme exemple le fait de nous avoir fait enlever, je ne sais pas si vous vous rappelez, les lampes incandescentes qu'on avait, et nous ont fait acheter des lampes plus haut compactes. Voilà. Le problème de la lampe plus haut compacte, c'est qu'à fabriquer, elle est X fois plus polluante que l'autre. À recycler, j'en parle même pas, c'est une horreur. En plus, au niveau de la santé, pour les utilisateurs, c'est du néon. Le néon, quelque chose qui scintille, donc qui abîme les yeux à la longue. Et en plus, c'est pas quelque chose qui est fait pour être allumé et éteint. Donc surconsommation à chaque allumage et à chaque extinction. Bref, donc c'est pas du tout un produit qui est écolo, ni économique. Mais je sais pas pourquoi, les écologistes les verts ont décidé de mettre ça en place et nous interdire d'utiliser ce qu'on avait avant. Voilà.
Bah, c'est parfois au nom de l'idéologie, mais le nucléaire, par exemple, est un bon sujet. Le nucléaire, c'est moins cher. Le nucléaire, c'est sécure. Le nucléaire, il n'y a aucun incident nucléaire en France depuis le début des centrales nucléaires. Eh bien, on a fermé Fessenheim au nom de l'idéologie. Voilà, c'est parce que on a, alors François Hollande en l'occurrence avait fait également plaisir à sa majorité écologique ou une part de sa majorité qui constituait sa majorité et des écolos, et effectivement on avait fait plaisir également à Madame Merkel qui avait fermé je crois 8 centrales nucléaires en Allemagne, et tout ça pour des raisons écologiques, pour des raisons je veux dire idéologiques. Alors que, je le répète, c'est une énergie qui est moins chère, c'est une énergie qui est sécure, et c'est une énergie qui ne pose pas de problème en France. Et disons-le, mis à part Tchernobyl, il n'y a quasiment pas d'accident nucléaire au monde. Lorsqu'on dit Fukushima, on a été construire une centrale sur une zone sismique, ce qui est un peu différent. La raison, c'est qu'il ne fallait pas la construire là. Mais en soi, ce n'était pas un accident nucléaire. C'était un accident sismique au départ. Donc, il faut attention toujours à l'idéologie, forcément.
Mais c'est là où, justement, vous mettez le doigt sur le problème fondamental avec l'écologie en France. Moi, j'habitais en Allemagne, enfant et adulte, assez longtemps, pour me rendre compte que les Allemands, l'écologie en général, est totalement intégrée à la mentalité. Et le problème en France, c'est qu'on veut faire le forcing pour faire entrer l'écologie, et de façon complètement absurde. Déjà, on sait très bien que les mentalités sont les choses qui sont les plus longues à changer. On voit le temps qu'il a fallu pour que les gens mettent la ceinture au volant. Mais l'approche française, c'est au forceps et absurde.
Bah merci beaucoup Hervé pour ce témoignage. Vraiment, merci. Et celui à grâce à qui ou à cause de qui nous parlons depuis quelques minutes de ce sujet, eh bien, il est dans le studio, c'est Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Votre surf ce matin nous fait causer, cher ami.
J'y suis pour rien, vous savez, je regarde les conseils municipaux à Vincennes, hein, comme tous les jours, et puis hop, voilà quoi. Oui, non, c'est un petit peu étrange ce qui s'est passé.
Ah, mais c'était tout à fait remarquable, mais vous étiez en pleine forme, parce qu'hier, vous avez fait une bonne chronique également sur Alain Finkielkraut, c'était intéressant. Ah,
c'était une très bonne émission, c'est CNews, vous avez vu. Une vie passionnante, je vous regarde, je regarde les conseils municipaux de Vincennes, c'est
extraordinaire. C'était intéressant. Bon, c'est quoi votre programme aujourd'hui? Est-ce que le vendredi, vous venez nous dire bonjour, parce que...
On défait le monde à 19h15, 20h, l'émission sérieuse sans se prendre au sérieux. Et là, on vous propose un truc extraordinaire, un voyage au centre de la Terre. Parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de partir sur Mars, sur la Lune.
Jules Verne.
Voilà. Mais il y a quoi sous nos pieds?
Mais je sais pas, justement. Mais ça nous faisait rêver quand on était enfant.
Eh ben, justement.
Si on creuse, alors il y en a qui creusent.
Vous savez jusqu'à combien on est capable de creuser? Parce qu'on va sur Mars à plusieurs millions de kilomètres. Mais quand on creuse, on n'est pas capable de descendre en dessous de 12 kilomètres, figurez-vous. On sait pas ce qu'il y a en dessous de 12. On n'y est jamais allé.
Non.
Mais je vous le jure.
Mais pourquoi?
Eh ben, vous saurez tout en écoutant Défait le Monde ce soir.
Mais si on pourrait creuser, par exemple, combien de kilomètres?
Eh ben, 12 kilomètres.
Oui, mais non, mais j'ai compris. Mais si on voulait creuser plus.
Eh ben, on n'y arrive pas. On ne peut pas.
J'entends bien, mais est-ce qu'on sait ce qu'il y a derrière ces 12 kilomètres?
On devine et on imagine ce qu'il y a. Il y a le noyau terrestre à 5000 kilomètres en dessous de nos pieds. Mais on ne peut pas y aller. Et certains spécialistes vous disent on n'ira jamais, c'est impossible. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller jusqu'à Mars, mais on n'est pas capable de descendre en dessous. Bon, je ne vais pas vous dévoiler toute l'émission, mais ça va être passionnant.
Ah, mais oui, le noyau de la Terre, mais ça doit être chaud, non?
Ah, il fait très chaud. C'est hot saucisse.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé Et ceux qui creusent, toi, tu creuses.
Le bon, la brute et le truand. Formidable.
Bon, ben merci, monsieur Sylvie.
C'est juste une partie de l'émission, mais ça va être formidable, comme d'habitude.
Bon. Vous aimez Christophe ?
J'adore.
Bon, on va réécouter du Christophe. À tout de suite.
Chose.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Vous l'avez dit, Pascal, il y a un an, le chanteur Christophe nous quittait à l'âge de 74 ans.
Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux.
Et vous pourrez nous partager vos souvenirs de l'interprète des mots bleus et d'Aline. Et puis l'info, mesdames, messieurs.
Non essentiel.
Non essentiel.
À Lyon, des volontaires vont être payés pour chanter faux devant des chercheurs. Deux études vont être menées pour en apprendre plus sur les personnes qui ont des déficits sur ce sujet. Certains ont du mal à mémoriser des mélodies, ne se rendent pas compte qu'ils chantent faux. Les chercheurs vont étudier leur perception musicale. Alors, si vous avez envie de... Si vous chantez faux, appelez-nous au 3210.
Vous savez que Pascal est capable d'appeler le 3210.
C'est de la provocation, hein.
Il est méchant.
Vous n'y pouvez rien, vous êtes comme ça, vous êtes méchant. C'est pas
vous
sa
m'adorez.
Faute.
M'adorez.
C'est pas votre faute. Nous sommes encore sur le sujet écologie les verts, manifestement. Nous sommes avec Christopher. Non,
nous ne sommes plus sur ce sujet. Vous souhaitez évoquer ce qui se passe à Épinay. Et c'est vrai que ça, ça fait peur. On l'a entendu tout à l'heure. Les policiers qui sont deviennent des cibles, des photos personnelles, deux fonctionnaires de la police d'Épinay-sur-Seine en Seine-Saint-Denis ont été placardés dans une cité de la ville. Un selfie, une photo de mariage qui ont été récupérées sur les comptes Facebook. On imagine que ce sont des dealers qui ont mis ces photos, qui les ont placardées. Nous sommes avec Christopher. Bonjour.
Oui, bonjour. Merci de me laisser la parole.
Et merci à vous d'être avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez ?
On voit un peu l'évolution. Je veux dire, maintenant, il y a les réseaux sociaux. À l'époque, ça existait aussi. Hein. Je veux dire, c'est vrai qu'on entendait peut-être un peu moins parler. Parce
qu'est-ce
que
qui existait avant ?
Des menaces au niveau des policiers.
Des menaces, c'est pas la même chose. Là, des photos, ça existait ?
Des photos, non. Bon, après, ils les suivaient. Un peu différent parce que c'est vrai que maintenant, comme je vous dis, maintenant les réseaux sociaux c'est facile de pirater, je veux dire, des comptes. Donc après, vous voyez comment ça se passe. C'est ouais, moi je trouve ça un petit peu ouais, c'est un peu répétitif, mais c'est vrai que le problème c'est que il est toujours là. Je veux dire, c'est une minorité, je veux dire, dans les quartiers qui, comme vous dites, des dealers ou des choses qui dérangent. Hein. Je pense que certains policiers dérangent aussi par rapport à ça, par rapport à leur travail qu'ils doivent faire. Et puis, eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est déstabiliser un petit peu ces gens-là, parce que ces gens-là, malheureusement, ils seront infectés autre part, parce qu'ils ne pourront plus rester dans le coin.
Ah, vous pensez qu'ils ne pourront plus rester ?
Pour moi, oui. Parce que c'est déjà arrivé que certains policiers, à mon avis, ont pu déménager à cause des menaces. C'est déjà arrivé sur Fontainebleau. Ça, j'en suis sûr.
Alors, je rappelle que ces faits interviennent alors que le Parlement a adopté définitivement jeudi la proposition de loi sur la sécurité globale, hein, dont l'article 24, très controversé, prévoyait justement de sanctionner la diffusion malveillante d'images de forces de l'ordre. Et une mesure que les syndicats policiers souhaitaient à tout prix pour être mieux protégés.
Ouais, après, ils verront bien, mais c'est vrai que tant qu'on n'aura pas réglé, je pense, les problèmes des réseaux sociaux, sur la sécurité, des choses comme ça, malheureusement, je pense qu'on sera très difficile de retrouver les personnes.
Mais ça n'a pas l'air de vous choquer plus que ça ?
Non, parce que c'est vrai que moi j'ai vécu dans des quartiers. Alors c'est vrai que le truc c'est que il y a des côtés sympas, je veux dire, du quartier. Puis il y a du quartier un petit peu moins sympa, je veux dire, la nuit où il y a des choses qui se passent. On sait très bien qu'il y a des armes.
Ça c'est pas sympa du tout quand même pour les policiers, parce que vous vous rendez compte, c'est qui va vouloir être policier aujourd'hui en France ?
Ah oui, moi de toute façon moi j'habitais vous voyez en Seine-et-Marne à l'époque, et il y avait des gens, des jeunes, hein, en haut d'un immeuble, ils prenaient des plaques d'égout puis ils les balançaient comme ça au niveau des voitures des policiers quand ils passaient.
Ça, c'était quand ?
Ça, c'est véridique, ça.
C'était quand ?
Ça, c'est dans les années fin 90, 2000.
Donc, ce que vous nous dites, au fond, c'est que ça a toujours existé. J'entends ça de temps en temps, et que les réseaux sociaux et la multiplication des images donnent une publicité qui, au fond,
et même parfois nocives, mais surtout, on a le sentiment qu'il y en a plus qu'avant de ce type d'incident, alors que ça existait déjà dans le passé. C'est ça que vous dites ?
Ah, tout à fait, oui.
Pour moi, j'entends souvent ça, moi, que les réseaux sociaux ont donné une publicité à cela, mais que ça existe depuis toujours.
Bon. C'est parce que moi, j'ai toujours connu la violence, je veux dire, depuis que je suis tout petit, en rond à la maternelle. Alors, parce que j'habitais à Ivry, dans des quartiers, je veux dire, voilà.
Après, vous
je
suis avez quel âge ?
Marie. J'ai 40 ans. Voilà, c'est pour ça que je suis parti un peu de la région parisienne, pour vivre un petit peu autre chose, quoi. Un peu plus de tranquillité.
Mais elle se matérialisait comment, cette violence à la maternelle ?
Bah, le truc, c'est que bah, c'est vrai que moi, j'avais ma mère qui s'occupait pas de moi. Alors donc, moi, par rapport à ça, bah, je veux dire, des fois, la nuit, le soir, je traînais le soir. Je suis pas le seul, hein, ça existe hein, toujours, hein, actuellement. Hein. Et le truc, c'est que bah, des fois, on rencontre pas forcément des bonnes personnes. Alors, c'est vrai que bah, c'est souvent des bagarres. C'est souvent toute la jeunesse, ça nous suit un petit peu. Après, c'est la scolarité aussi qui nous suit aussi un peu. C'est un peu le... Ouais, c'est un cercle vicieux. Hein. C'est qu'après, on a du mal à s'en sortir. Et puis après, bah, c'est vrai, quand on commence à être ado, tout ça, on commence à peut-être à penser à l'avenir. Bon, c'est vrai que moi, j'ai pris un autre chemin, donc j'ai réussi. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup bah, qui ne réussissent pas, malheureusement.
Mais c'est marrant parce que vous en parlez avec beaucoup de lucidité.
Ah oui, oui. Moi, c'est pour ça que moi, ça me... Et un me choque. Après, je veux dire, à la vie, bah, comme je dis, c'est un combat. Je veux dire, et voilà. Après, ce qu'il faut, c'est se prendre en main et puis aller de l'avant.
Écoutez, ça vous a réussi, manifestement, Christopher.
Ah oui, 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 y a pas de souci. Moi, j'ai fini, j'ai dirigé une école à l'école française de Berne. J'étais vice-président. J'ai travaillé au Monument de France à Paris. Voyez. Alors donc, tout est possible dans la vie.
Je peux vous poser une question indiscrète ?
Bon, allez-y.
Vous avez dit, et ça n'a rien à voir avec notre conversation hein, sur les policiers. Vous avez dit, ma mère ne s'occupait pas de moi. Et aujourd'hui, vous avez 40 ans. Je voulais simplement, et c'est très indiscret ma question, est-ce que vous avez renoué, si tant est que le contact ait peut-être été un moment rompu avec votre mère ?
Ah, jamais. Ça fait plus de 30 ans que je ne l'ai plus revue. Parce que bah, c'est vrai que bah, nous enfermait dans nos chambres. Elle partait le soir, elle ne venait jamais nous chercher à l'école. Vous voyez, elle nous laissait vraiment le seul, quoi. Alors après, c'est vrai qu'il n'y a pas, moi je suis un Français, vous voyez, il n'y a pas forcément que les gens de couleur, des choses comme ça, je veux dire, ça, c'est partout pareil. Et c'est vrai que le problème, c'est qu'aussi, il faut regarder aussi sur le fond de la société qu'on a actuellement, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a tous ces genres de problèmes-là, c'est qu'on ne responsabilise pas assez les parents, je trouve, pour moi. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'enfant, je veux dire, on est livré à nous-mêmes. Et le truc, c'est que bah, c'est sûr, après, soit on va dans la violence, ou soit on essaye de s'en sortir.
Et voilà. Quand vous dites que vous ne l'avez pas revu depuis 30 ans, c'est-à-dire que comme vous en avez 40, vous ne l'avez pas revu depuis l'âge de 10 ans ?
C'est ça.
Et vous savez ce qu'elle est devenue ?
Pas du tout. Moi, ça ne m'intéresse pas.
Pardonnez-moi de poser ces questions.
Non, mais le problème, c'est qu'en fin de compte, c'est vrai que par rapport à ça, vu que, je veux dire, depuis l'âge où je suis né jusqu'à 6 ans, quand mon père m'a récupéré, j'ai aucune éducation. Et c'est vrai que le plus important, je pense, chez un enfant, c'est le départ. C'est entre 1 an et 6 ans. C'est la base de l'éducation. Et c'est vrai que quand mon père m'a repris, je ne savais pas parler correctement. Je ne savais pas m'exprimer, je ne savais rien faire. Et en fin de compte, je parlais un langage, je veux dire, de quartier. Et c'est tout. Et puis c'est vrai que bah, j'étais aussi un peu engrené dans la violence. Quand on m'embêtait, bah, je tapais. Vous voyez, c'était ça un petit peu mon langage. Mais le problème, c'est que bah, les enfants, ils ne choisissent pas par rapport à ça. Et c'est ça qui est malheureux un petit peu dans la société, quoi.
Vous avez des enfants, Christopher ?
Oui, j'en ai deux.
Votre témoignage est formidable. Je ne peux pas vous dire autre chose. Et vous parlez avec une telle lucidité, une telle précision, une telle intelligence. Et vous étiez déjà venu à l'antenne, hein, il me semble. Hein. On avait déjà eu un échange.
Tout à fait, oui.
Je me souviens. On n'était pas allé aussi précisément dans votre passé. Mais écoutez, on va marquer une pause et puis on va écouter le flash. Et puis si ça vous ennuie pas, on conclura avec vous parce que il y a quelque chose aussi de, j'allais dire, de pédagogique dans ce que vous dites. Peut-être pour les auditeurs. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Sébastien Rouxel.
Toujours aucune trace de la petite Mia. Trois jours après son enlèvement, quatre personnes sont désormais en garde à vue. Ils sont connus des services de renseignement pour leur appartenance à la mouvance survivaliste. Trois d'entre eux sont les ravisseurs présumés. Un rapt organisé par la mère de la fillette. Elle les a sollicités via Internet. Une fuite à l'étranger n'est pas exclue, craint le procureur d'Épinal. Cette troisième vague est loin d'être terminée. L'avertissement de Jean Castex ce matin, alors que les chiffres montrent un timide ralentissement de l'épidémie. Le pic n'est pas encore atteint, mais l'exécutif confirme son calendrier. Réouverture des écoles maternelles, primaires et des crèches le 26 avril. Des lycées et des collèges le 3 mai. L'échéance de la mi-mai est pour le moment maintenue pour de premières réouvertures, celles des terrasses et musées. De son côté, le Portugal lève la suspension des vols avec le Royaume-Uni et le Brésil, annonce il y a quelques minutes du gouvernement portugais. Il faudra probablement une troisième dose de vaccin d'ici 6 mois, 1 an. C'est le PDG du laboratoire Pfizer qui l'affirme. Près de 12 millions de Français ont reçu une première injection. Un peu plus de 4 millions sont totalement vaccinés. Il est probable que l'Europe ne renouvelle pas ses contrats l'année prochaine avec AstraZeneca. Déclaration ce matin de la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Incendie désormais maîtrisé à Aubervilliers en Ile-de-France. Reprise progressive du RERB entre Aulnay et Gare du Nord, mais le trafic reste fortement perturbé. En football, 33e journée de Ligue 1 ce soir, le leader du championnat, Lille, reçoit Montpellier. Coup d'envoi à 21h. La météo demain et encore des averses des Pyrénées à la région PACA et à la Corse. Elles seront parfois soutenues et mêlées de coups de tonnerre. On aura même de la neige sur les Pyrénées. On attend de belles éclaircies en revanche du sud de l'Aquitaine au sud de l'Auvergne. Partout ailleurs, le ciel sera gris mais le temps restera sec. Côté température, demain matin, ça reste frais avec de petites gelées encore en matinée. Dans l'après-midi, comptez 11 à 15 degrés en général, 14 à 17 près de la Méditerranée. Les courses, elles ont lieu à Vincennes en semi-nocturne. Les pronostics de Dominique Cordier, le 9, le 16, le 15, le 2, le 7, le 14 et le 11. Sa dernière minute, c'est le numéro 15, Good Friday.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Merci Sébastien Rouxel et on continue donc avec Christopher. Et je disais qu'il y avait une vertu pédagogique dans ce que vous disiez, puisque la preuve est que même avec une enfance compliquée, difficile, on peut arriver à trouver une vie plus classique. Et je disais que vous aviez deux enfants, c'était là-dessus que nous terminions. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un jeune de 10 ans, 11 ans que vous rencontrez et qui souffrirait de la même légèreté d'éducation que vous avez souffert, dont vous avez souffert?
Après, bon, je pense que chaque personne a des problèmes un peu différents. Je veux dire, tout dépend de la gravité de ce que ça peut avoir. Tu vois, soit ça peut être des violences avec les parents, des choses comme ça. Mais c'est vrai que le truc, c'est tenir bon. Je veux dire, de pas se sentir, parce que c'est vrai qu'entre les élèves, des fois c'est pas évident parce qu'on essaye de se sentir un peu comme tout le monde, mais on l'est pas, parce que c'est vrai qu'en classe, vu qu'on a un niveau inférieur par rapport aux autres, on se sent tout de suite un petit peu écarté par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'il faut être dur mentalement. Je veux dire, faut travailler un peu plus que les autres. Et le truc, c'est que c'est pas lâcher. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à vraiment me poser des questions quand je suis parti réellement en centre de formation générale. Ça s'appelle un CFG. C'est qu'en fin de compte, c'est quand on sort du cursus scolaire, je veux dire, au niveau du collège. Moi, j'ai raté en 6e. Et le truc, c'est qu'ils nous envoient sur cette formation, on apprend un métier. Et en même temps, on apprend les bases, je veux dire, de l'école primaire, un petit peu, pour nous remettre un petit peu dedans. Et après, je suis reparti avec deux CAP derrière. Et puis, je les ai réussi. Et puis, on m'avait embauché au Monument de France, quoi. Directement à Rodoyer.
Merci beaucoup, Christopher, vraiment, voilà, de ce témoignage. Et n'hésitez pas à nous appeler, parce que vraiment, ce que vous dites est très intéressant. Fabrice voulait également intervenir sur ce qui se passe à Épinay. Je rappelle les photos des deux policiers du commissariat d'Épinay-sur-Seine, volés sur les réseaux sociaux, placardés dans une cité de cette ville, dans la nuit de mercredi à jeudi. Et ce jeudi, à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est indigné que les visages et les noms de policiers aient été affichés dans des immeubles où on fait du deal. C'est ce que disait Gérald Darmanin. Bonjour Fabrice, vous êtes policier.
Bonjour Pascal Pro, merci de prendre mon témoignage à l'antenne.
Merci à vous d'être avec nous.
ouais, sur le sujet que vous venez d'exposer, il est évident que bah, je ne peux être qu'attristé, médusé, et être pris aussi de peur, et même d'émotion, de voir que mes collègues ont été placardés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rejoins Christopher dans son témoignage. Qu'est-ce qui va advenir de nos collègues ? Devoir être mutés, devoir déménager pour préserver leur vie de famille. Est-ce que ça paraît logique dans l'institution de fait de représenter l'administration, de défendre l'État, de faire notre travail au quotidien, de partir le matin, de savoir quand on part, de ne pas savoir quand est-ce qu'on va revenir, et si on revient, de devoir protéger notre famille. De savoir est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose chez nous avant de revenir, parce que ben à l'école, votre enfant a dit que son papa était policier, parce que un enfant, il est fier de dire que son papa est des policiers. Mais aujourd'hui, ça passe plus, ça.
C'est vrai, d'ailleurs. C'est vrai ce que vous dites. Dans les cours de récréation, dans les années 70, parfois, on mentait. D'ailleurs, on disait « Mon père, il est policier ». Et c'était une fierté. Vous avez raison. C'est drôle, ce que vous dites.
Mais aujourd'hui, c'est l'enfant ne peut plus en parler. Parce que derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Alors certes, il y a les réseaux sociaux. On sait qu'il y a des... Même pas des adolescents, mais des personnes de 12-13 ans qui sont sur Facebook et tout ça, qui relaient les informations, qui... On l'a bien vu dans divers faits divers. C'est pas la première fois que j'interviens sur votre antenne pour les violences urbaines. Mais vous savez, nous, on fait notre boulot au quotidien. On est dirigé, on a des ordres, on applique. Alors certes, on nous voit comme policiers dans le côté répressif. Ben oui, parce qu'on nous le demande et on est obligé d'être répressif. Mais on fait que notre travail. On a une vie humaine derrière, on a une vie privée, on a une famille. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé de déménager parce que demain, votre photo va être placardée dans une cité ou ailleurs, hein, peu importe le lieu. Mais nous, on n'a pas le droit d'aller voler des photos, de placarder des collègues et de leur anéantir leur vie. On est policier, on ne gagne pas des milliers des cents. Et j'en appelle... Alors, vous savez qu'on a des droits de réserve. On ne peut pas s'exprimer. Moi, je suis un auditeur. Oui, certes, vous l'avez rappelé, je suis un policier. Mais on a aussi un droit de réserve. Nous, on ne peut pas s'exprimer sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Alors, quel est notre droit de réponse ? Nos syndicats qui vont nous défendre ?
Oui.
Notre ministre qui va nous soutenir ?
Oui, vos syndicats et parfois, certains médias. Qui peuvent vous aider.
Et les médias nous soutiennent. Et votre antenne et votre émission soutient et nous permet d'apporter un témoignage sur lequel on puisse s'exprimer. Mais l'émotion, elle est tellement grande au jour d'aujourd'hui de me dire, moi, il va peut-être me rester 8 ans. Mais le futur de mes collègues, vous l'aviez très bien rappelé, qui veut devenir policier aujourd'hui ?
Je suis d'accord.
Pas mes enfants.
Mais je suis d'accord, Fabrice. Et ce qui m'ennuie parfois, c'est quand j'entends même certains médias tirer à boulet rouge sur les policiers et sur ce qu'on appelle les violences policières, qui est un terme personnellement que je récuse. Il peut y avoir des violences de policiers, mais de violences de policiers, mais pas des violences policières. Et que si on pouvait faire un travail pédagogique, là encore, pour aider la police. Et l'aider, c'est quoi ? C'est lorsque vous êtes arrêté de ne pas prendre le policier de haut, d'être effectivement dans un certain climat, quand il vous demande les papiers ou que sais-je, bah, effectivement, ce n'est pas un temps pour discuter, que chacun doit comprendre que ce temps-là, c'est un temps particulier et que celui qui est en face de vous fait simplement son travail. Et généralement, si vous êtes dans un certain état d'esprit, c'est même pas généralement, j'ai pu le vérifier des dizaines de fois, bah ça se passe bien. C'est ça la réalité. Mais en revanche, si t'arrives et que tu prends les gens de haut, que tu es arrogant, que t'es désagréable, etc., bah ça se passe mal. Voilà.
D'un côté comme de l'autre, bien sûr.
Bah bien sûr, évidemment. Mais si...
vous savez,
moi, j'ai toujours été frappé de ça. Si t'es extrêmement... agréable, poli, comme on disait jadis, et voilà, ça se passe bien.
C'était les îlotiers, ce qu'on appelait les îlotiers, ceux qui étaient en proximité des personnes au jour d'aujourd'hui.
Et au contraire, parfois, ça se passe même tellement bien, parce qu'ils sont tellement surpris que ça se passe bien, qu'ils vous disent, bah, au moins, vous êtes, ça se passe bien avec vous. Alors que les gens, aujourd'hui, vous les arrêtez, t'as l'impression, c'est évident que c'est toujours violent quand t'es arrêté par un policier, bien sûr que c'est violent.
Bien sûr, mais vous savez...
C'est pas agréable, mais c'est ça,
travail.
Aider la police, c'est aussi ça. C'est aussi ça.
C'est notre travail, avec passion. Mmh. On est régi à un code de déontologie, un droit de réserve, on ne peut pas s'exprimer. Mais vous savez, la souffrance d'un policier...
Mais ça serait à refaire, par exemple. Et pardonnez-moi de vous couper, ça serait à refaire, Fabrice. Vous avez 20 ans aujourd'hui. Vous retournez dans la police ?
Oui. Mmh. Oui.
J'étais sûr que vous diriez ça aussi, parce que c'est une passion, la police.
Je le fais avec la... Voilà.
Et tant mieux que vous disiez ça, d'ailleurs. Tant mieux que vous disiez ça.
Il faut garder cette passion. Ouais. Chacun choisit son métier, comme vous dites, à 20 ans. Moi, j'ai choisi cette branche-là pour rien au monde. Mais maintenant, je veux aussi préserver ma famille. Mais quand vous voyez que des familles sont placardées, bien sûr qu'elles vont être obligées de déménager. Bien sûr qu'elles vont être obligées de partir. Quelle est la solution ? J'en appelle vraiment au ministre sur lequel, voilà, à un moment ou un autre, protégeons aussi les policiers qui font leur travail au quotidien de la meilleure façon qui soit.
Merci Fabrice, vraiment merci de votre très beau témoignage. Nous avons de très beaux témoignages aujourd'hui, vendredi, YK Anony. C'est vrai que forcément, il peut y avoir dans cette émission des témoignages parfois plus forts les uns des autres, c'est bien normal. Et j'ai le sentiment que Fabrice, Christopher, tout à l'heure, sont des témoignages très différents d'ailleurs, mais assez forts. Greg, c'est vous qui réaliserez On défait le monde ce soir ?
Absolument.
Eh oui, vous bossez.
Bien sûr. Et alors, sachez qu'il y aura un cadeau incroyable. Je fais aussi un peu la promo dans Des Faits de Monde. Je racole un petit peu avec le cadeau. Mais ce sera un cadeau super vers 19h40.
Ce sera quoi ?
Je peux pas le dire.
Ce sera quoi ?
Je peux pas le dire.
Pourquoi ?
Posez la question encore si vous voulez.
Non.
Ah, vous voulez un indice pour le cadeau ?
Oui.
Tenez.
Ça sera un coffret peut-être de Christophe. Ça sera lié à Christophe sans doute.
Absolument pas.
Ah, bon.
Écoutez ce soir.
Là, franchement, c'est étonnant comme indice. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous allons changer de sujet. La réouverture, est-ce que vous croyez que à la mi-mai, nous allons pouvoir déjeuner en terrasse ? Nous sommes avec Rebecca. Bonjour Rebecca.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Rebecca,
merci
alors,
à vous.
Vous êtes fleuriste, Rebecca. Vous nous appelez quelques fois.
Exactement.
Et ça me fait plaisir parce qu'à chaque fois, il y a au son de votre voix toute l'énergie que vous mettez sans doute dans votre vie comme dans votre métier.
Exactement, tout le temps. À 100%,
c'est
à
bien.
Fond, tout le temps.
C'est bien. Donc dites-nous tout sur cette réouverture. Vous y croyez ?
Mais bien sûr que j'y crois. Et il faut, pour tout le monde.
Ah oui, non, mais ça, c'est sûr qu'il le faut. Mais est-ce que vous y croyez, vous ? Est-ce que vous pensez que...
Bien sûr.
Ah bon ?
Il faut y croire. Mais oui, il faut y croire.
Moi, j'ai peur.
Mais non, il ne faut pas avoir peur. Il faut que ce gouvernement puisse laisser les autres commerçants qui sont non essentiels travailler.
Je suis d'accord avec vous, mais les promesses du gouvernement, vous voulez que je vous les égrène ?
Non.
Les promesses non tenues, le 1er mars, Emmanuel Macron disait qu'il fallait encore tenir 4 à 6 semaines. On est le 16 avril aujourd'hui. Ça, pour tenir, on tient.
Oui, mais il faut tenir. Il faut, faut être solidaire. Après, il faut descendre dans la rue.
Non, c'est plus compliqué. Moi, je peux pas. Je suis pas sur le terrain de la désobéissance civile, Rebecca. J'essaye de convaincre.
Mais moi, je suis sûre qu'on va réouvrir. C'est obligatoire. Tout le monde pète un câble.
c'est une métaphore, mais c'est bien dit. C'est bien dit.
Mais oui, tout le monde en a marre.
Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous.
Ceux qui ont du stock dans les magasins qui sont fermés, les petits commerçants. Il y en a combien là qui vont fermer, qui vont mettre la clé sous la porte ?
Non, mais surtout qu'il y a des... On sait bien, par exemple, qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de contamination à l'extérieur. Donc,
mais non, même les théâtres, quand ils ont fait les Moliens, ils étaient tous en randonnion, là, serrés comme des sardines. Ça ne va pas changer le problème. Hein. Là, on peut tous y être aussi, hein, avec le masque, geste barrière.
Vous êtes fleuriste, mais vous êtes... pas en boutique, hein, si je me souviens bien.
Vous avez bien retenu.
Vous avez des enfants aussi.
Exactement.
Bon, je me souviens de notre conversation. Donc vous êtes sur les marchés.
Oui.
Bon, et en ce moment.
Alors oui, il n'y a plus de camelots. Les camelots, c'est ceux qui sont dehors, qui vendent des vêtements, qui vendent un peu de tout. Il n'y a plus personne. Il y a des filtres au marché. Ils comptent le nombre de clients dans le marché. avec bien sûr tous masqués, du gel hydroalcoolique, et il n'y a plus de camelot.
Bon, et vous, vous êtes en ce moment au chômage forcé ou vous travaillez ?
Non, on travaille, non, on est passé essentiel. Parce que la chambre syndicale s'est battue, les fleuristes se sont battus. Mais ce n'est pas juste, parce que dans un sens où les esthéticiennes, elles n'ont pas le droit d'être ouvertes, alors qu'on en a besoin. Moi, j'en parle pour moi. Les coiffeurs, ils sont ouverts, pourquoi pas les barbiers ? Il y a des choses qui sont incohérentes.
Non, mais je savais que les fleuristes étaient restés ouverts, mais je me demandais sur les marchés, est-ce que ça fonctionne ?
Oui.
Normalement, c'était ça ma question.
Oui, tout fonctionne normalement.
Bon, donc, et vous avez le sentiment que les gens achètent autant de fleurs qu'avant ou il y a une petite baisse du chiffre d'affaires ?
Non, les gens se font vraiment plaisir. Ils ont besoin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de restaurant. Les gens se font plaisir à un bouquet de fleurs.
Donc, ils achètent plus de fleurs.
Plus de fleurs.
Ah ouais, donc ça, vous êtes entre guillemets des gagnants de la crise.
Oui.
Non, mais c'est intéressant de le dire, parce qu'on ne le sait pas, ça. Vous le dites avec franchise, d'ailleurs. Donc, votre chiffre d'affaires est supérieur en ce moment à ce qu'il était, par exemple, il y a 2 ans.
Oui.
Mais de manière très sensible ?
Non, un peu. Un petit peu.
Un petit peu. Bon, bah merci. Et marrant, Rebecca, elle ne veut pas trop dire, elle dit si, il y a un inspecteur du fisc qui écoute, les auditeurs ont la parole, il va me tomber dessus. Donc, on n'est jamais trop prudent, Rebecca. Voilà. Bon, bah écoutez, ça, en tout cas, c'est un super prénom, Rebecca.
Ouais, exactement. J'embrasse mes parents.
Bah écoutez, on les embrasse aussi.
Depuis très longtemps, on ne les a pas vus, c'est très compliqué.
Ben oui, en ce moment, on n'a pas toujours l'occasion de voir ses parents. On doit faire que 10 km. Donc, si les parents sont à plus de 10 km, on ne les voit pas.
Ouais. 800 bornes, c'est compliqué.
Ah oui, effectivement, la 800 bornes, vous ne faites pas ça dans le week-end.
Non.
Merci.
Surtout que le week-end, je travaille. Merci, Pascal. Bon,
à bientôt. Et appelez-nous. Vous nous appelez souvent le vendredi, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'était un vendredi aussi que vous nous aviez appelé.
Ah oui, le vendredi, c'est permis.
Ah oui. Vous voyez, j'ai même la mémoire du jour où vous appelez, c'est curieux. Hein.
Ouais, c'est que je suis au marché le vendredi, donc voilà.
Je devrais noter sur un petit cahier tous les auditeurs du jour. Ça, ce serait si j'étais discipliné. Et ça serait bien. Je vous dirais.
Je pense que vous l'êtes.
Bah, pas trop, non. Mais je dirais, tiens, vous nous avez appelé le vendredi 14 février, etc. Mais je le fais pas.
Bon, votre mémoire vous aide à le faire, en tout cas.
Bah non, parfois. Mais non, parce que Rebecca, elle m'avait marqué. Elle m'avait marqué, Rebecca. Merci, Rebecca, vraiment. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous aimez Christophe, Rebecca ?
Christophe.
Le chanteur Christophe, qui est mort il y a un an.
Non.
Non, vous n'aimez pas trop.
Je préfère Céline Dion, moi. Vous préférez ?
Oui, bah oui.
Ah, voilà.
Mais c'est une machine, ce Grégory. Il entend Céline Dion, mais vous l'avez dans la machine directement, comme ça ?
Je suis dans les cerveaux de chacun.
Mais ouais, c'est fou ça, comment vous
tremblez.
C'est vrai, vous me faites peur.
On écoute du Céline Dion au marché.
Ah oui ?
Mes voisins n'en peuvent plus, ouais.
Qu'est-ce que vous aimez bien ? Quelle est la chanson de Céline Dion que vous préférez ?
Ah, toutes.
Moi j'aime bien Puisque tu m'aimes encore.
Ouais, oui, c'est ça. Hein.
J'irai chercher ton cœur.
Pour que tu l'emportes ailleurs.
Ouais, alors ça peut me faire. Ça me fait pleurer cette phrase.
Ah, c'est magnifique.
Ça me fait pleurer. C'est curieux hein, quand même de pleurer pour une phrase. Mais j'irai chercher ton cœur.
Bon. Je l'adore.
Ben, je suis d'accord. Mais on n'avait pas du tout prévu de parler de Céline Dion. Hein.
Mais pas du tout. Mais j'ai hâte qu'elle revienne en France. Hein. On l'attend.
J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Tu te rends compte la force de cette phrase ?
D'autres dans ce... Ah non, mais elle est bon. Très forte.
Merci Rebecca.
Merci à vous.
Merci.
Très bon week-end.
Merci à vous.
Et merci à l'équipe. Au revoir,
Rebecca.
Bon. Il va être très bon ce week-end. Bruno est là, qui est commerçant dans le Rhône. Bonjour.
Bonjour, Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous y croyez, vous, à la réouverture ?
Eh bien, oui, j'y crois, et il faut y croire. Il faut voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. C'est ce qui fait avancer. Donc,
et vous n'êtes pas défiant, méfiant sur les promesses non tenues du gouvernement ?
Mais non.
Bon, alors moi, je suis pessimiste, en fait. Je suis tout seul.
Le gouvernement n'est pas responsable du coronavirus. C'est pas de leur faute. S'il est là maintenant, je pense que le gouvernement, s'il pouvait rouvrir les magasins demain, il le ferait. Et s'il n'y avait aucun risque pour le faire, je pense qu'il le ferait. Je ne suis pas certain qu'il fasse fermer les commerçants. Par gaieté de cœur, c'est pas je suis pas en tous les cas sur cette logique là.
Maintenant, voilà.
Vous êtes dans quel commerce ?
Eh bien, la bijouterie et le prêt-à-porter.
Mais là, vous perdez beaucoup d'argent ?
Non, parce que j'ai écouté un peu votre émission hier. Vous savez, il y a des aides quand même. Hein, donc, l'État fait aussi en sorte qu'on ne perde pas beaucoup d'argent quand même. Hein. Donc, on n'en gagne pas, certes. Mais enfin, on ne va pas mettre la clé sous la porte au regard des aides. Quand l'État vous donne 10 000 euros ou au moins 20% du chiffre d'affaires que vous avez, globalement, ça absorbe les charges quand même.
Même pour une bijouterie comme la vôtre ?
Eh bien, oui, c'est maintenant...
Maintenant, tout le monde est au régime des 20%. Avant, il y avait des restaurateurs et puis ça a été élargi.
Eh bien, voilà. Donc, en revanche, on fait attention à tout, mais c'est pas... voilà. On a aussi, il y a aussi des choses. Il faut être très honnête. Hein, c'est que les gens, entre autres, entre les deux confinements, les gens sont revenus et ont consommé aussi. Hein, donc, alors, on n'a pas tout récupéré, mais enfin, on a plutôt... Enfin,
c'est vrai qu'on fait des économies, d'ailleurs, de ce point de vue-là. On est tous frappés. Voilà. En fin de mois, on regarde nos cartes bleues et on fait tous des économies, puisque il n'y a plus de restaurants.
Voilà, et puis bon...
Y a plus de... On n'achète plus rien. Voilà, c'est ça qui me fait peur, d'ailleurs, parce qu'on s'habitue. En fait, on s'habitue à plus aller au théâtre, on s'habitue à plus aller au cinéma, on s'habitue à plus aller au stade de football, on s'habitue à plus aller dîner au restaurant, on s'habitue à plus aller nulle part. Et... Donc, effectivement, on économise.
On économise, mais quand ça va rouvrir, les plaisirs de la vie vont repartir. Et...
Alors, tout le monde n'économise pas, et je pense à ceux qui ne travaillent pas dans cette situation. Ceux-là, ils sont au...
Alors, attention, hein,
c'est très grave pour eux.
Voilà, c'est... Et les gens qui ont des emplois qui où ils ont perdu leur emploi, pour eux, c'est très compliqué, il faut les aider. Et, mais bon, c'est certain. Mais nous, en tant que commerçants, on n'est pas à la rue. Faut pas exagérer. Moi, quand j'entends des commerçants comme ça, j'aimerais bien voir véritablement leur compte, quoi. Parce que il y en a, ils pleurent pour pleurer. Donc, on pourrait tous pleurer, mais enfin, il faut avoir une réalité quand même.
Bon, ben merci Bruno. Un mot de Jean-Luc très vite parce qu'il attend depuis longtemps. Jean-Luc, 10 secondes, Jean-Luc. Vous avez 10 secondes parce que le débrief va commencer avec l'ami Tessier.
Pascal, bonjour à tout le monde. Donc, moi, le 16, je suis en train de manger en terrasse au bord de la Grande Bleue. Et je vous appellerai le 17 pour vous dire que j'ai bien mangé en terrasse parce que, comme si Dieu nous a dit qu'il rouvrait le 15 et puis s'il commence à mentir, Dieu, ben alors là, à qui est-ce qu'on va croire ?
Bon, vous habitez dans l'Oise aujourd'hui ?
Oui, dans l'Oise et aujourd'hui, je suis à Arras, là, je vous appelle d'Arras.
Mais vous, la ville de Robespierre ?
Voilà.
Mais à la mi-mai, vous serez...
Je serai à Hyères.
À Hyères, dans le Var.
Oui, dans le Var.
Bon, ben merci Jean-Luc, c'est le débrief.
Bon week-end, au revoir.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
On va pouvoir rire et remercier nos amis Écologie Les Verts qui nous offrent régulièrement une petite tribune pour s'amuser.
Après la polémique sur les avions, un élu Europe Écologie Les Verts de Vincennes dans le Val-de-Marne s'est fait remarquer pour une histoire de subvention d'un yacht club.
Est-ce que vous pourriez nous donner un élément d'explication pour le yacht club ?
Vous savez très bien la raison de notre vote. Nous ne subventionnons pas des sports qui émettent des polluants.
Aïe, 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 je sens un naufrage. Bon, pourquoi pas, mais ce conseiller municipal écologiste n'a pas vraiment regardé le dossier.
Des quoi ? Des polluants ?
Le yacht club, c'est des bateaux.
À voile.
Oui, mais il n'y a pas un port en France. C'est bien une convention.
C'est de la voile. Ça avance avec le vent, un bateau.
Et Marc au 32-10 est catégorique sur le sujet. Il va même très loin.
Pour moi, un parti écologiste, ça ne devrait pas exister. L'écologie n'est pas de la politique. La politique, c'est l'affaire de la gestion des hommes.
Aurore est étudiante. Elle en a marre de ces attaques contre les élus d'Europe Écologie Les Verts.
En fait, on fait des polémiques en ce moment énormément sur Europe Écologie Les Verts. Pourquoi ? Parce que c'est un parti qui prend de l'importance. C'est un étudiant, il a fait son mea culpa. Il ne faut pas non plus s'acharner.
Ouais, l'élu s'est excusé sur Twitter. Quelque chose à rajouter, Pascal ?
Il s'enfonce un peu, quitte à trouver des énergies fossiles.
Bah ouais, ouais, ouais !
Très bonne vanne. J'en ai marre de toutes ces polémiques. Allez, Guillaume, dites-moi quelque chose de beau.
L'amour est une très belle valeur.
Merci, Guillaume. C'est vrai, vive l'amour. Et à Lyon, des volontaires vont être payés pour chanter faux devant des chercheurs. Grosse étude en perspective pour comprendre certains d'entre nous. Alors, qui pourrait-on proposer aux chercheurs dans l'équipe? Je ne sais pas.
La playlist bateau. Ah. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux.
Oui, oula, 14h27, il est bientôt l'heure d'On est fait pour s'entendre.
Madame Flamand est demandée.
Monsieur Pro, ah bah ça y est, elle est là.
Ouais, une info pour briller lors des dîners clandestins, Flavie.
L'info pour briller au dîner.
On avait l'impression qu'au premier confinement, tout le monde allait faire des galipettes. Et il semble que les Français n'aient pas eu la tête à la friponnerie sous la couette, figurez-vous.
Oh, ça rime tout ça, une réaction, ami Pascal.
Dans quel monde vit-on?
Mais oui, je dois vous faire une demande. Flavie, je dois aussi vous faire une confession.
Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive?
Bah, je vous écoutais hier sur ce sujet.
Est-ce que vous avez remarqué comment on râle avec le temps? Alors évidemment, nous, on s'est demandé au bureau, est-ce qu'on va tous devenir de vieux grincheux?
Et puis,
alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai 2-3 mots à vous dire sur le sujet.
Mais moi, j'ai pas l'impression
vous restez...
d'être grincheux du tout.
Vous êtes...
Défendez-vous, ami Pascal. Il y a eu aussi cette question très intime sur vous.
Bonjour.
Que vous venez de faire. Bonjour, madame.
Soyez le bienvenu. Quel âge avez-vous, Pascal?
Je suis né le 9 septembre 1964. J'aurai 57 ans.
Eh bien, c'est bien noté. Et Flavie, vous me l'avez chauffé aussi sur le « c'était mieux avant ».
Qui est Michel Sardou aujourd'hui? Quel est le Michel Sardou de la chanson française aujourd'hui? Quel est le Michel Jonas, le Michel Berger, le Johnny Hallyday?
Mais la nouvelle star de la chanson française, c'est vous, Pascal, je vous rappelle.
La playlist bateau. Ah. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux.
Une réaction, Michel Sardou, d'ailleurs, à cette interprétation?
Je hais cette époque. Je hais ce siècle.
Oui, je peux vous comprendre. Bon, redevenons sérieux quand même avec une question.
Non essentiel.
Non essentiel.
Allez-y, Flavie, interrogez Pascal.
Pascal, votre jeunesse, c'était une jeunesse junkie, vous couriez tout nu dans les prés.
Ah non, pas du tout. Après... Non, mais.
Ah bon, vous êtes sûr? Pourtant, vous avez l'air d'aimer les tenues très légères.
J'espère que vous serez gentil avec moi. Oui. Autrement, je me mets tout nu.
Eh ouais. Oui, Flavie, un dernier mot sur cette chronique.
Ah, vous êtes très fort, hein, je trouve quand même. Hein.
Merci, Flavie. Pascal, message personnel, ma voiture est en panne. Vous me prêtez votre voiture pour le week-end?
Avec plaisir, ami.
C'est gentil. Le mot de la fin, continue, allez-y.
Là, vous m'avez sidéré.
C'est gentil. Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte avec la chanson que nous écouterons lors de la réouverture des terrasses, des musées.
Vous êtes exceptionnel. Je sais pas comment vous faites ça en si peu de temps.
Merci. Ah non, vous parliez à Laurent, pardon.
Non, je parlais à Laurent, c'est incroyable.
Ma femme me dit ça aussi.
Mais ça, c'est pas possible.
On arrête. On coupe ça, c'est pas...
Bon, Flavie Flamand, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.